L'émission que vous allez suivre maintenant n'est pas un direct. C'est une rediffusion.
Dernier appel pour les passagers du vol 3 Airlines. Prière de se présenter à l'antre de la Vibe. Embarquement immédiat. Choisissez votre place et installez-vous confortablement.
Classeco. Classeco. Votre émission qui traite des questions d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation. Classeco, c'est le rendez-vous pour vous qui voulez construire le Cameroun. Classeco, de lundi à vendredi, entre 10h et 12h, avec Nadine Enonguet.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur volume 3. Pour nous aussi, c'est la rentrée, pas scolaire mais des programmes. Et c'est avec un réel plaisir que j'entame avec vous cette deuxième saison de vol en Classeco. Une saison très particulière parce que je n'ai plus de copilote. On dit au revoir officiellement à Rodi Janda, l'unique commandant de bord. C'est moi et bien entendu, il y a des stewards pour m'accompagner pour cette autre saison. Classeco, c'est toujours l'économie, l'entrepreneuriat et l'innovation. Mais il y a quelques nouveautés. Nous avons diversifié l'expertise pour cette saison, donc avec nos différents experts. On parlera, selon le programme, d'économie normalement le lundi, d'agriculture le mardi, de droit tous les mercredis et le jeudi sera réservé à la fiscalité. L'autre nouveauté de cette nouvelle saison de Classeco, c'est Afrique Économie pour mieux comprendre l'actualité et les évolutions du monde. Un programme qui nous est proposé par RFI avec qui nous collaborons désormais. Je nous souhaite à tous des vols sans turbulence tout au long de cette saison 2, dont voici le tout premier plan de vol.
Aujourd'hui, en Classeco avec notre expert, on évoque ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans l'agriculture. Le passager inaugural de cette deuxième saison est issu de la tech. Nous allons à la rencontre d'Aloy Cambi. Au marché, nous irons chercher le nectar de la ruche car le miel est au menu. La première escale de la saison nous conduit chez David qui est mécanicien. On parle de gestion scolaire en innovation avec Ecotech. Et dans l'Afrique Économie, nous parlons du décollage de l'énergie solaire en Afrique.
Une fois de plus, bonjour et bienvenue en Classeco. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous avez encore le temps de bien vous installer. Un beau programme, je peux vous le garantir, riche en apprentissage. En principe, je l'ai dit à l'entame, l'expertise du lundi est censée porter sur l'économie. Mais bon, l'homme propose, Dieu dispose, à ton coutume de dire, on va plutôt entamer cette saison en parlant d'agriculture avec notre expert dédié. Donc, on va commencer par l'agriculture, comme je le disais. Autant il est vrai que la terre ne ment pas, autant il y a des choses à savoir avant de se lancer dans les activités agricoles. Donc il ne suffit plus juste de rester et de se dire qu'il y a une petite parcelle de terre qu'on aimerait valoriser et se mettre à faire des semis dessus. Il y a des prérequis. Pour se faire une idée, nous avons donc rendez-vous avec notre expert agri qui n'est autre que Rigobert Ewanet.
L'expert dans Classeco.
Les éléments importants à connaître avant de se lancer en agriculture. Premièrement, il faut connaître son marché. La connaissance du marché passe ici par une étude de marché qui s'opère généralement auprès des grossistes, des détaillants ou alors des consommateurs finaux qui sont les ménages. L'étude de marché va vous permettre ici de connaître les prix des différents produits agricoles, les différents conditionnements, les périodes d'abondance et de pénurie de ces différents produits. Deuxièmement, vous devez connaître votre objectif de production. L'objectif de production s'y permet de savoir pour qui est-ce que vous produisez. Est-ce que vous produisez pour vendre aux grossistes? Est-ce que vous produisez pour vendre aux revendeurs? Ou alors est-ce que vous produisez pour vendre directement aux consommateurs final qui sont les ménages? Troisièmement, vous devez connaître ou faire le choix d'un bon site de production. La connaissance de son site de production passe par le fait de savoir s'il y a un cours d'eau proche de votre site. Si ce n'est pas le cas, prévoir, faire un forage ou d'aménager un puits. connaître également la qualité de votre sol. Si nous sommes en production végétale ou la structure complète de votre sol, si nous sommes en production animale, car là, on va construire des bâtiments et il faudrait que le sol soit assez solide. Également, vérifier l'accessibilité de votre site. Si vous constatez que votre site n'est pas très accessible, prévoir aménager une route à cet effet, ce qui va vous permettre de pouvoir entrer et faire sortir vos différents produits plus facilement. Quatrièmement, il faut connaître l'itinéraire technique culturel de la culture ou alors de l'élevage que vous souhaitez mettre sur pied. La connaissance de l'itinéraire technique culturel donc passe par le fait de savoir à quelle période est-ce que vous devez par exemple planter, à quelle période est-ce que vous devez labourer, à quelle période est-ce que vous allez faire les traitements phytosanitaires, à quelle période est-ce que vous allez fertiliser, à quelle période est-ce que vous allez nettoyer, à quelle période est-ce que vous allez récolter vos différents produits. Cinquièmement, vous devez connaître et faire le choix des variétés ou espèces adaptées à votre zone agroécologique. Car il y a des variétés ou espèces qui se développent le mieux dans les zones de haute altitude et des variétés ou espèces qui se développent le mieux dans les zones de basse altitude. L'exemple pris sur la culture de l'avocat, on a des variétés telles que Taylor et Anaheim qui se développent le mieux dans les zones de haute altitude et des variétés telles que Bot 7, Bot 8, Tonnage qui se développent le mieux dans les zones de basse altitude. Sixièmement, vous devez connaître votre compte d'exploitation prévisionnelle. Vous devez connaître et établir un bon compte d'exploitation prévisionnelle. La connaissance de votre compte d'exploitation prévisionnelle passe ici par le fait de savoir les charges liées à la culture ou l'élevage que vous souhaitez mettre sur pied, les dépenses, les bénéfices que vous aurez lorsque vous arriverez en fin de production. Septièmement, vous devez connaître et faire le choix des personnes avec qui vous allez travailler, d'où la gestion de la ressource humaine. Savoir principalement qui va intervenir dans votre projet, à quel moment est-ce qu'ils vont intervenir et quels seront les coûts qui vont être liés à la gestion de ce personnel.
L'expert dans Classico.
Baby, I like your stuff.
Voilà, merci beaucoup à Rigobert et Wanné pour ce partage. Vous le constaterez, on ne va pas, en ce qui concerne l'agriculture, on ne va pas aller trop dans les détails, mais on va vous donner ce qui est important. On va dire que moi, j'ai retenu qu'il faut faire une étude de marché. Je ne pensais pas que pour cultiver, il fallait également faire une étude de marché, qu'il faut connaître son objectif de production, qu'il faut maîtriser également son site de production, qu'il faut adapter les plans à la zone agroécologique. On aura l'occasion de revenir pour parler des différentes zones agroécologiques au Cameroun, mais qu'il faut connaître également son compte d'exploitation prévisionnelle, c'est-à-dire maîtriser ses charges, parce que oui, en toute chose, il faut calculer, il faut savoir exactement combien on aura besoin, qu'est-ce qu'on va investir. Ce n'est pas juste si j'ai 100 000 aujourd'hui, je peux me lancer dans l'agriculture. On espère que si on réussit à respecter le programme de passage de nos différents experts, vous retrouverez Rigobert et Wanné en terre comme notre expert agriculture tous les mardis. Quand on va réussir à tout stabiliser, tout ça, vous savez que les départs sont souvent un tout petit peu poussifs, c'est la rentrée, le temps de tout mettre en place pour vous offrir un programme de qualité. Et donc après ce passage avec notre expert, on va marquer la première pause. On se retrouve juste après. Nous sommes de retour dans ce vol inaugural qui se poursuit dans l'univers de la tech à la rencontre de notre passager du jour.
Classico, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Le passager du jour dans Classico.
C'est dans le centre administratif de la ville de Douala, en plein cœur du quartier Bonanjo, que nous vous emmenons aujourd'hui à la rencontre de notre passager du jour. Nous sommes chez Dikalo. Donc aujourd'hui, notre passager du jour n'est autre que Alain Ekambi. C'est un tout petit peu dans un berceau de la tech au Cameroun que nous vous emmenons. Suivez-nous. On va dire qu'on est loin de la Silicon Valley. Les autres dans la région du sud-ouest ont la Silicon Mountain. Mais je préfère penser qu'on est venu un tout petit peu aujourd'hui dans ce qui sera un grand berceau de la tech au Cameroun dans quelques années encore, on l'espère. Et aujourd'hui, on va dire qu'on nous reçoit dans de très beaux locaux, à la manière start-up. Et pour moi, c'est un réel plaisir de finalement rencontrer Alain Ekambi loin des réseaux sociaux. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous.
C'est un grand honneur, merci.
D'accord. Moi, j'aime commencer tous les projets par l'histoire. Aujourd'hui, vous êtes dans un bureau chic, c'est une ambiance, une atmosphère start-up. Quand vous retournez un tout petit peu dans le passé et que vous comparez avec, on va dire quoi, le balcon, la terrasse de votre mère à Grand Moulin où l'aventure a un tout petit peu commencé, qu'est-ce que vous vous dites? C'est le sentiment de j'ai accompli quelque chose ou bien je dois grandir encore?
Le sentiment, c'est quelle aventure. Wow. On ne le croit pas vraiment, mais quelle aventure depuis le temps, en effet, c'est incroyable. Je me souviens encore de l'époque où je disais à mon frère, je vais faire quelque chose, soit on va monumentalement échouer, soit on va monumentalement réussir, et je pense qu'on est sur le chemin où on n'a pas encore échoué, donc voilà, il y a de quoi être fier quand même.
Il y a des jours où vous avez quand même envie de retourner dans le confort de cette petite terrasse familiale?
Tous les jours, tous les jours, vraiment il y a des jours où on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on se donne toute cette peine, est-ce que ça vaut même vraiment la peine? Tous les jours, il n'y a aucun jour où on ne doute pas, mais en même temps, quand on voit l'objectif devant, on se dit, voilà, il faut continuer, ça vaut la peine.
D'accord. Dans votre histoire, dans votre parcours, on voit que vous avez été basketteur professionnel, que vous avez travaillé pour BMW, c'est pas n'importe qui, en dehors de l'amour de la patrie, qu'est-ce qui vous pousse un tout petit peu à revenir dans cette galère, du moins celle des débuts, puisque ça a quand même changé entre-temps?
Pour moi, c'est pas vraiment une galère, c'est aussi une opportunité de faire grandir les choses dans son propre pays, de se dire, voilà, ce que j'ai appris ailleurs, ce que les connaissances que j'ai acquises là-bas, je peux les mettre à disposition dans mon propre pays. C'est plus une vision, en fait. Moi, je me dis, ce qu'ils font, c'est pas de la magie, il faut juste vraiment être organisé, il faut être motivé, et j'ai envie d'apporter un petit de cela ici dans mon propre pays. C'est vraiment tout.
Qui vous a fait, on va dire quoi, tomber amoureux de l'informatique, de la tech, parce qu'au départ, ce n'était pas votre domaine d'études?
Non, pas du tout. Je voulais faire ponts et chaussées même, en fait. J'ai commencé dans les ponts et chaussées, donc je voulais construire des ponts, etc. Mais quand je suis parti en Allemagne, à l'époque, je n'avais pas des bases en technique, parce que j'ai fait la terminale D ici, donc en général. Donc quand j'arrive là-bas, il fallait vraiment avoir des bases, parce qu'on faisait la base de nos études, il y avait aussi beaucoup d'architecture, donc il fallait faire beaucoup de dessins techniques. C'était pas vraiment mon truc. Donc je suis allé au conseil d'orientation d'étudiants, comme on appelait ça à l'époque, et puis j'ai un peu dit que voilà, j'ai des difficultés avec cette filière-ci, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller d'autre? Et puis ils ont un peu étudié, ils ont dit, ah, vous aimez bien les mathématiques, vous aimez bien la logique, peut-être l'informatique serait quelque chose pour vous, donc allez voir un semestre, et puis si ça vous intéresse, vous revenez nous dire ce que vous en pensez. Je suis allé dans un cours d'informatique, et puis c'était comme le coup de foudre, en fait. Je me suis vraiment retrouvé dans mon élément, et c'est comme ça que je pars des ponts et chaussées pour l'informatique.
D'accord, c'est une transition qui était facile pour vous?
Oui, assez. Pourquoi? Parce que bon, c'était presque les mêmes matières que les ponts et chaussées. Il y avait beaucoup de mathématiques, beaucoup de logique, mais il n'y avait pas tout ce qui était dessin technique, faire les plans 3D, tout ça. Ce n'était pas vraiment ma force. Donc,
pourtant, on aurait pensé que quand on nous a fait souffrir les perspectives cavalières ici avec la D, ça aurait pu passer.
Non, bah, en D, on ne fait pas tout ça. C'est justement qui ont fait les études techniques ici, qui fallait quand même certaines bases quand même pour faire.
On nous a fait faire les perspectives cavalières en A. Pourquoi en D, on ne vous l'a fait pas?
C'est pas vraiment là-bas, c'était vraiment il fallait vraiment s'y connaître. Ils avaient des dessins vraiment, et puis le matériel aussi, les équerres, les tables, tout ça, je m'y connaissais pas du tout, parce qu'il y a aussi du matériel qu'il fallait acheter. Ça dit vraiment, on a une table technique là, on fait plein de dessins, donc c'est pas vraiment sur son format A4 là, il fallait vraiment des trucs assez professionnels, et même déjà là j'étais perdu. Donc je me suis dit, bon, autant de perdre une année, autant mieux me faire orienter et faire autre chose.
D'accord. Quand on on regarde Dicalé aujourd'hui, est-ce que on doit saluer votre ténacité ou alors on doit remercier le géant Google de ne vous avoir pas finalement recruté en 2015?
Il faut remercier la ténacité. Je suis plutôt content. À l'époque, j'étais très, très déçu hein, de n'avoir pas passé cette interview. Je disais que c'était une très longue interview chez Google, donc j'étais presque à la fin, mais ils m'ont finalement pas pris. Mais plus vieux, plus mieux, je me dis non, c'était nettement mieux. C'est nettement mieux qu'il ne m'ait pas pris parce que l'aventure du Calo est nettement plus enrichissante pour moi, je pense. Et aussi, je pense au niveau potentiel, c'est nettement mieux pour l'Afrique.
D'accord. Il faut préciser que dans ce projet, vous ne l'avez pas, on va dire, démarré, vous n'êtes pas seul. Même si la partie Daniel Agnero, Bito Apendekil, on les voit moins, j'ai l'impression que c'est un peu la face immergée. Ouais. Qu'est-ce qui vous a finalement mis ensemble, qui a mis ensemble toutes ces personnes-là dans ce projet?
Bon, d'abord, Daniel, il arrive vraiment par hasard dans le projet, du moins il m'est vraiment tombé dessus comme ça, entre guillemets. Il m'écrit un jour comme ça sur Facebook, voilà, j'aime bien le projet, je suis très intéressé, j'ai bien envie de participer. J'étais très sceptique, vraiment, parce qu'avant lui, il y a d'autres personnes qui sont arrivées et ils sont découragés, ils n'ont même pas fait 2 mois. Donc je me suis dit, avant de commencer encore à dire à quelqu'un c'est quoi le projet et puis il va disparaître dans 2 mois. Et donc mon cœur m'a dit, essaye, on ne sait jamais. Il allait un peu sérieux et puis je suis vraiment tombé sur quelqu'un qui était tout aussi passionné par le projet que moi-même. J'allais dormir, lui, il était toujours là en train de faire des choses. Donc c'est pour ça que Daniel arrive dans le projet. Ensuite, je tombe sur Bitoa quelques années après. Elle aussi, elle croit vraiment à la vision, elle comprend vraiment ce qu'on veut faire. Donc elle joue aussi le projet. Et ensuite vient Kate, parce qu'il y a aussi Kate, hein, que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais qui est vraiment aussi un des piliers du projet. Elle aussi vient quelques temps après. Donc c'est comme ça que nous quatre, on grandit dans le projet. Et à un moment, je décide de faire aussi des cofondateurs, en fait, pas juste des gens qui travaillent dans le projet, parce qu'ils ont tellement embrassé le projet, bien mieux que moi-même. Et j'ai dit, bon voilà, ces 4 personnes méritent de porter le projet tout autant que moi.
Donc, ils vous ont rejoint par passion au début.
Ouais, plus de passion.
Et puis, le grand Manitou a décidé un matin que vous méritez quand même 5%,
exact.
Tout ça.
Non, pas grand Manitou, mais j'ai juste vu tellement de
l'implication.
Exact. C'était vraiment bien plus que moi. C'est-à-dire, comme je dis souvent, moi j'allais dormir, ils faisaient nettement plus que moi. J'ai dit, bon, ça, on va pas juste faire ça comme du partenariat, il faut vraiment que ce soit comme votre entreprise aussi. Là, ici, on vous voit, c'est qu'on a vu Dicalo. En fait, c'était une façon pour moi de montrer ma reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait pour Dicalo. Ils continuent de faire d'ailleurs. C'est juste que c'est moi qui suis un peu plus visible, mais vraiment, il y a beaucoup d'autres personnes à part derrière.
Donc, ceux qui pensent que non, c'est l'argent qui les a réunis.
Non, déjà, il y en avait pas. Donc, du coup, c'était que la passion. C'était que la passion. Jusqu'aujourd'hui, même derrière, ce n'est que la passion.
D'accord. L'idée révolutionnaire de l'époque, c'est d'emmener les gens sur les plateformes et tout ça. À discuter sans nécessairement échanger de contact.
Exact.
Beaucoup étaient sceptiques. Ouais. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est plus le cas?
Non, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Les idées, à l'époque, on disait, mais ça sert à rien. Ça sonne même faux de communiquer sans numéro de téléphone. J'ai dit, mais non. Pour communiquer avec quelqu'un, pour lui envoyer un message, je n'ai pas forcément besoin d'avoir son numéro de téléphone. Il y a d'autres.
La preuve, on a échangé, je n'ai pas votre contact.
Exact, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, toutes les messageries font ça. Mais à l'époque, beaucoup de gens disaient, non, c'est pas intéressant. Je ne vois pas vraiment l'utilité. Pourtant, aujourd'hui, c'est devenu... on est courante, exact.
D'accord.
Donc, on était précurseurs dans beaucoup de choses, mais bon, comme on est un peu en Afrique où les gens sont toujours sceptiques...
Voilà, est-ce que ça va tenir?
Exact.
Mais vous avez tenu. Yeah. Quand vous pensez le projet, vous vous voyez comme quelqu'un qui va venir révolutionner le secteur de la tech sur le continent. Mmh. Entre votre idée de départ et la réalité sur le terrain, quel a été le premier choc?
Le choc, c'est la perception des gens, en fait. C'était ça le plus dur pour moi. Je n'avais pas prévu ça du tout. 99% des gens pensaient que ça ne sert à rien. Que vraiment, il y a déjà, sans faire le pub, Facebook, WhatsApp, tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire de mieux qu'ils ne peuvent pas faire? Dans votre projet, là, on ne vous donne pas plus de 5 mois. Déjà, avant, vous-même, beaucoup ont essayé aussi. Donc, du coup, vous allez faire quoi que les autres n'ont pas fait? C'était ce scepticisme-là qui était vraiment, ça m'a frappé vraiment tout d'un coup, en fait. Parce que je me disais, bah, on va nous accueillir à bras ouverts, on va nous prendre comme des héros. Mais c'était plutôt l'inverse. Beaucoup étaient très sceptiques, beaucoup pensaient que ça ne sert à rien, beaucoup pensaient qu'il n'y a pas vraiment de plus-value dans ce qu'on essaie de faire. Et ça m'a vraiment, vraiment choqué au début, on va dire.
Ah, on voit d'ailleurs un tout petit peu sur le ton de la moquerie chaque fois qu'on essaie de mettre quelque chose, vous demandez quelle est la plus-value.
Voilà, un peu de sarcasme pour aussi un peu dire, voilà, vous voyez tout ce que je vous avais dit à l'époque, mais vous vous rendez compte que c'est, pour moi, ça sonnait tellement logique, je ne comprenais pas pourquoi les gens ne voyaient pas ça, mais bon, on voit qu'il y a 5 ans aussi, peut-être le contexte social était un peu différent, on va dire.
On vérifiait le nul n'est prophète chez soi.
Ouais, souvent je me dis ça. Hein. Je me dis que je suis souvent un peu en avance, mais façon de blaguer en fait.
Mais est-ce que vous vous dites que si par exemple vous étiez allé vous installer complètement en Côte d'Ivoire, la donne aurait été différente? Parce qu'on a souvent on a souvent tendance à penser que là-bas, les choses vont un peu plus vite qu'en Afrique centrale.
Ah, peut-être, peut-être pas. J'en sais rien, je ne saurais vraiment jamais. Ça m'a jamais non plus traversé l'idée. Je me dis, voilà, je suis Camerounais, il faut bien que j'essaie quelque chose au Cameroun. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui sont tout aussi talentueux que moi, qui font beaucoup de choses là-bas. Il faut bien que nous aussi, on fasse des choses chez nous. Peut-être si j'étais allé ailleurs, ça aurait été plus simple, mais bon, on ne sait jamais. Hein. C'est vraiment jamais.
On ne saura vraiment jamais. Mais bon, maintenant, Dicalo, c'est 10 ans, une dizaine d'années de résilience.
Bon, 10 ans, oui.
Oui, depuis le début de l'histoire, exact. C'est la résilience, les doutes, les rêves, l'espoir aussi, mais également le développement. C'est une famille qui est bien grande aujourd'hui, il faut bien qu'on en présente les différents membres. On va commencer par le tout premier qui est Dicalo.
Oui.
Dicalo, c'est réseau social, tout simplement.
Exact. Dicalo a d'abord commencé comme une messagerie, même. Mm-hmm. C'était pas du tout un réseau social. L'idée, justement, c'était une messagerie où on communique sans donner d'informations privées.
Oui.
C'est-à-dire, on pouvait juste communiquer comme on communique. On s'est parlé, on n'a même pas le numéro de téléphone. Oui. C'était ça l'idée de base, en fait. C'est-à-dire, je décide moi-même si oui ou non, je vais donner mon numéro.
Mais à quel moment on migre ?
Voilà, c'est que les utilisateurs ont commencé à avoir plus de besoins que non, il nous faut aussi un réseau social, pas seulement une messagerie. On aimerait aussi bien avoir un endroit où on peut poster des choses, on peut. On s'est dit, bon, ok, si c'est vous qui demandez, bah, finalement, pourquoi pas. Donc, du coup, on a ajouté tant bien que mal des fonctionnalités de réseau social dans Dicalo, c'est-à-dire un fil d'actualité, on pourrait poster, like, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens qui sont venus pour la messagerie ont aussi commencé à se plaindre. Que bon,
c'est pas ce qu'on voulait.
Exact. On comprend bien la vision de faire grandir, mais c'est pas vraiment pourquoi nous on est venus. Si on voulait vraiment juste communiquer sans donner le numéro, bon, maintenant, dès que j'ouvre l'application, je vois les photos à gauche, à droite.
Ça m'intéresse pas.
C'est pas vraiment pourquoi je suis venu ici. Donc, il fallait repenser la chose. Et c'est pour ça qu'à un moment, on a pu avoir discuté avec l'équipe, on a dit, bon, c'est pas la messagerie du réseau social. Mm-hmm. C'est-à-dire, le réseau social reste dans Dicalo et la messagerie part d'un produit à part qui s'appelle Buntu. Donc, c'est là qu'on a deux produits aujourd'hui.
Buntu, ça signifie?
Buntu dit, ensemble, on est plus fort en sud-africain. Ça vient un peu de Ubuntu, mais.
Ah, d'accord. Ubuntu, okay.
Exact. C'est-à-dire, pour dire qu'ensemble, on peut aller plus loin.
D'accord.
Alors, c'est comme ça que naît Ubuntu de Dicalo. C'est comme ça que les.
C'est vrai que j'avais pas très bien compris. Ça, c'est vrai que Dicalo, au début, c'était un peu la messagerie, mais après, c'est venu au réseau social. Je me suis dit que bon, j'avais pas très compris aujourd'hui. On va dire que c'est fait.
Exact.
Et maintenant, dans les fonctionnalités qu'on a ajoutées à Dicalo, il y a Yara.
Oui. Alors, l'idée, c'est qu'on a deux produits phares qui sont Dicalo et Ubuntu. Maintenant, dans ces produits, on a des services qui sont des fonctionnalités. Voilà, Yara, c'est un peu comme des vidéoconférences. C'est un peu comme les Space pour ceux qui connaissent d'autres réseaux sociaux. Des gens peuvent venir dessus, faire des conférences audio et vidéo. C'est un peu ça l'idée de Yara, en fait. On peut venir discuter sur différents sujets. Un peu comme on a eu dernièrement un politicien qui est venu discuter avec voilà, la communauté Dicalo. C'est ça, Yara, en fait.
C'était également la demande de ceux qui étaient sur la plateforme ou bien c'est des idées que vous avez pensées?
Non, ce qu'on fait, en fait. Bon, en fait, c'est un mix des deux. On a souvent des discussions avec nos utilisateurs, souvent si les gens trouvent quelque chose de cool ailleurs, disent non, ce serait aussi bien que vous ayez ça ici, et puis on évalue un peu, on dit ouais, ça a un sens. C'est comme ça qu'on a ajouté ça dans Dicalo, en fait. Et à la base, le système de Yara était même d'abord juste pour les appels, c'était même pas vraiment pour faire des vidéos conférences, c'était juste pour pouvoir s'appeler.
Mm-hmm.
Et puis on s'est dit, bon, si on peut déjà s'appeler, peut-être on peut aussi faire des salons comme sur les autres réseaux sociaux, étant donné que c'était ce qui était aussi à la mode. Là, on s'est dit, bon, ouais, pourquoi pas nous aussi, nous faire ça. Et c'est comme ça que ça atterrit dans Dicalo, en fait.
D'accord. Maintenant, dans la famille, on va parler de ceux avec qui on parle d'argent, parce que ça devient très intéressant dès qu'on parle d'argent.
Exact.
En premier, il y a eu Oka avant Tara.
Exact.
Bon, déjà, est-ce que Tara est venue tuer Oka? Première question.
Okay. Non, c'est plus une évolution du service Oka. C'est vraiment Oka qui est en train de grandir pour devenir Tara, en fait.
Donc, aujourd'hui, concrètement, Oka disparaît au fur et à mesure?
Disparaît, c'est pas encore, mais parce qu'Oka est encore dans Dicalo et Buntu, mais ça va complètement différente et Tara va remplacer Oka, en fait.
D'accord, le principe de départ aussi sur celui-là.
Ce sera le même. En fait, pourquoi on change même? D'abord, c'est au niveau du nom. Mm-hmm. Ça a commencé vraiment avec le nom Oka. Il y a 6-7 mois, une entreprise est venue, on n'a fait pas porter plainte, mais nous prévenir, on va dire ça comme ça, que ce nom est protégé.
Tout comme vous avez Yara qui a été utilisé aussi, mais
par
bon.
Quelqu'un d'autre. Okay,
bon, vous n'avez pas la tête pour faire la guerre, ça va.
On a laissé passer, voilà, on est trop petit pour se faire des batailles qui ne servent déjà rien dans l'écosystème. Mais c'est une entreprise qui est un peu plus grande, étrangement dans les détergents qui n'ont même rien à voir avec la tech, mais bon.
Et que cette appellation-là.
Oui, ils nous ont dit non, vraiment le nom, là, il faut laisser, sinon on va vous porter plainte. On s'est dit bon, autant mieux quitter du nord. Donc on a cherché un nom, on a dit Tara, ça passe un peu à ce qu'on veut faire. Et maintenant, vu qu'on change aussi d'ailleurs de nom, on trouve chercher de nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire permettre aux gens d'utiliser le produit même quand ils n'ont pas nos applications. Donc c'est un peu ce que Tara est en train de devenir. Et Tara va donc remplacer Roka dans Dikalo. Donc à la place du H, on aura plutôt un T dans le futur.
D'accord. Ce qui veut dire que de ce que j'ai vu, il n'y a pas une application mobile, mais c'est plutôt web.
Non, il y a pour le moment. Pour le moment, il y a un bot sur Telegram et WhatsApp où on peut déjà utiliser le service Tara. Et dans la prochaine mise à jour de Ubuntu d'abord, ensuite du Kalo, il y aura la même fonctionnalité dans l'application. En ce moment, la fonctionnalité dans l'application, c'est Roka. C'est-à-dire, dans Ubuntu, il y a H là pour dire Roka, c'est là-bas qu'on fait. Voilà. Mais le H, comme j'ai dit, va devenir un T pour Tara. Et justement, la fonctionnalité de Tara va être dans du Kalo et Ubuntu aussi.
Donc, pour ceux qui vont découvrir en écoutant ou en regardant, il faut qu'on réexplique ce qui se passe avec Oka devenu Tara ou en devenir pour Tara. Sur comment est-ce que ça révolutionne un peu le marché des transferts d'argent.
Alors déjà, dans le passé, notre idée, c'était pas juste de faire un réseau social ou une messagerie où les gens viennent juste s'envoyer des photos, des selfies. C'était une fois qu'on a 100 000, 200 000, 300 000 Africains sur une même plateforme, quels sont les services qu'on peut leur offrir? Parce que nous, vraiment, c'est les services qui est notre vision. Déjà, les gens pensent qu'on s'oriente à WhatsApp, mais nous, on s'oriente un peu plus à WeChat, qui est une plateforme chinoise avec beaucoup de services intégrés. Le premier service qu'on voulait faire, c'est le transfert d'argent entre membres. C'est-à-dire, je peux instantanément, quel que soit ta position dans le monde, t'envoyer là. Ça ne devrait pas coûter grand-chose. Tant qu'on est dans la même plateforme, techniquement, ça devrait être moins cher ou gratuit. Donc, c'est plus ça la vision de Roka à l'époque. Ça s'appelait Roka qui Tara maintenant. C'est-à-dire, on s'envoie l'argent de partout dans le monde moins cher. Donc, quelle que soit ma position géographique dans le monde, je peux envoyer l'argent, mais je peux aussi recevoir de l'argent aussi au Cameroun. Je fais des prestations peut-être pour des gens à l'étranger, ils peuvent facilement m'envoyer de l'argent. Ou alors, je suis à l'étranger, j'ai mes business au Cameroun, je peux facilement me faire payer sans avoir à passer par les intermédiaires. C'est un peu ça la vision de base de ce qu'on veut faire avec Tara, en fait. C'est-à-dire, ce qu'on se fait ailleurs où en 2-3 secondes, je peux t'envoyer de l'argent sans avoir des frais de transfert, des frais de retrait, etc. Mais vraiment le faire de façon instantanée et moins cher.
Ouais, mais de ce que j'avais cru comprendre au départ, il y avait en expliquant un tout petit peu le système de je suis au Cameroun, j'ai besoin de donner de l'argent, quelqu'un d'autre le fait et tout
exact.
Ça.
Exact. On avait aussi un système de justement la communauté, c'est-à-dire on se base sur la communauté de Dikalo pour envoyer l'argent où nous-mêmes on ne peut pas.
Ouais.
Parce que nous-mêmes Dikalo on n'envoie pas de l'argent, ce qu'on fait c'est qu'on connecte les gens, mais nous on est au milieu pour sécuriser
les
transactions. En fait, pour que voilà, les abus qui se passent sur les autres plateformes ne se passent pas chez nous. Ça veut dire un exemple, je suis au Cameroun, je vais envoyer l'argent en Côte d'Ivoire. Nous, on trouve quelqu'un en Côte d'Ivoire qui dit ok, je me porte garant de payer ici pour toi. Et plus tard, quand moi je vais vouloir envoyer de l'argent au Cameroun, quelqu'un va se porter garant pour moi. Maintenant, cette garantie-là, c'est nous, Dikalo, qui nous en occupons.
Comment?
Automatiquement, ça donne à développer justement un algorithme où quand je suis au Cameroun, je veux envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire, je publie juste, je fais une publication pour la GL, un exemple, 10 000 ici, j'aimerais recevoir ça en Côte d'Ivoire. Donc, automatiquement, notre algorithme se met en marche et trouve quelqu'un en Côte d'Ivoire qui va faire la transaction. Maintenant, lui, il le fait parce qu'il sait qu'il est dans la communauté du Dikalo, donc voilà, il est assuré, on va dire ça comme ça, et que plus tard, lui-même, quand il aura besoin de quelqu'un qui lui envoie de l'argent au Cameroun, nous, Dikalo, on va lui trouver la personne. Mais tout ça, c'est fait de façon automatique, sans que vraiment celui qui envoie ait lui-même à aller chercher la personne, en fait.
Non, je pense qu'il faut être vraiment dans le système, parce que quand on gère les histoires d'argent et qu'on n'a pas, on va dire, la couverture d'un établissement financier ou le grand régulateur, on se dit toujours, et si celui qui a fait la transaction pour moi, quand j'en ai besoin, lui dit qu'il n'a pas d'argent, c'est Dikalo qui paye.
Exactement, c'est là que nous, on se porte grand, mais la raison pour laquelle ça marche, c'est parce qu'on a développé une communauté d'abord, avant même le produit. Ça dit, nous, on savait au début que le produit lui-même, il n'est pas vraiment au top.
Ouais.
Le fait d'avoir créé une communauté autour. Les gens qui le font parce qu'ils font partie de la communauté, c'est pour s'entraider, en fait. Ils savent que ce n'est pas forcément pour devenir riche, mais ils savent que le transfert là est très difficile. Donc, la plupart se portent grand, ok, c'est pas un problème, toi tu gères là-bas, moi je gère ici. C'est plus vraiment une affaire communautaire que pour autre chose. Ça marche seulement parce qu'il y a une communauté derrière. C'est techniquement comme les groupes Facebook, ou tout ça, où les gens font des trocs, sauf que nous, il y a quand même une sécurité au milieu que nous, des cas, on se porte devant du membre la transaction. Et jusqu'ici, ça fait 2 ans.
Il n'y a pas eu de pépin.
Il n'y a pas eu de pépin parce que justement, il y a d'abord une communauté derrière. Les gens qui viennent, c'est parce que c'est d'abord communautaire. Il faut le dire, sans la communauté, ce système n'allait pas fonctionner du tout, en fait.
Mais on va continuer à espérer que le verre n'entre pas dans le fruit.
Voilà, donc, D'accord, bien sûr. Bon, j'en suis vraiment quoi fier parce qu'au fil des temps, quand même, il y a une confiance qui s'est établie. Là, la plupart des gens qui le font parce que bon, ils font partie de la communauté des Calons, en fait. Et comme je dis, c'est parce qu'au début, on s'est vraiment focalisé sur le community building ou sur le produit. Bon, les gens qui viennent dans des cas, ils le font parce qu'ils partagent la même vision que nous, en fait. C'est-à-dire celle de faire un produit où nous-mêmes, on se retrouve et on trouve des solutions à nos propres problèmes sans passer par les autres.
D'accord. Et avec Tara, tu vois qu'on a investi à peu près toutes les messageries maintenant. Oui. Quand on n'est plus juste sur la plateforme que vous contrôlez, parce que c'est vous, comment ça se passe? Pourquoi déjà avoir étendu à toutes ces autres messageries-là?
J'ai dit au moment où on voulait passer de Hawk à Tara, justement, on a aussi commencé un peu à réfléchir est-ce que ce ne serait pas mieux d'étendre un peu notre risque, parce que bon, l'expérience nous a montré que c'est très difficile pour les gens de télécharger les applications. Même quand tu peux les amener à télécharger quelque chose, c'est très difficile. Donc, peut-être une façon facile pour eux d'abord de tester. Et s'ils trouvent que c'est bien là, maintenant, ils peuvent aller télécharger l'application. Et ce qu'on a vu, c'est que c'est plus facile de partager un contact que Tara sur WhatsApp et Telegram. C'est vraiment juste un contact qu'on t'envoie et tu peux déjà interagir avec. Donc, pour les gens, c'est plus facile à utiliser en fait que d'aller leur dire va télécharger une application, créer un compte. Et souvent, c'est lourd. Et aussi le fait que pour nous, c'est plus facile de toucher les gens sur iPhone comme ça, parce que bon, notre application est malheureusement toujours un peu en retard sur iPhone.
Ouais.
Alors, avec ça, on pouvait aussi rapidement toucher les gens sur iPhone. Donc, c'était vraiment une tentative pour nous de toucher plus de personnes un peu plus facilement. C'est pour ça qu'on a dit, bon, on élargit un peu la plateforme sur d'autres plateformes qui ne sont pas forcément nos applications.
C'est la fin de la première partie de notre échange avec Alain et Combi. Bien entendu, on va marquer la pause habituelle dans ce programme et on va se retrouver tout à l'heure pour poursuivre notre échange.
C'est moi, c'est Flinchou. Vous savez que c'est un palais comme Avec la Thomas qui est chez là. Si quelqu'un n'a pas téléchargé, volume quoi, l'application non sur Play Sport. Play Sport. Bref, dans son téléphone, c'est qu'il est dans les rumeurs. Oui.
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, retrouve nos émissions sur volume3media.com. Sur volume3media.com.
Il est temps de poursuivre ce fort bel échange avec notre passager du jour, Alain et Combi.
Classe Éco, pour découvrir et célébrer la diversité des parcours de vie. Le passager du jour dans Classe Éco.
Donc, concrètement, aujourd'hui, celui qui veut rejoindre l'aventure Tara, comment il procède?
D'abord, c'est simple, il y a un numéro sur WhatsApp ou sur Telegram. Le numéro est aussi simple à retenir, 6 40 15 40 40. Donc, c'est un contact qu'on ajoute dans son WhatsApp, comme un contact normal. Et puis, on lui envoie des messages. On dit bonjour et puis Tara va te répondre. On envoie une série d'options que tu peux faire. Je vais envoyer de l'argent, je vais faire des cotisations. Bref, il y a une panoplie d'options. Et par option, tu choisis ce que tu veux faire. Et tu suis juste la procédure.
D'accord.
L'avantage avec ça, c'est que c'est juste un contact qu'on a sur WhatsApp. Donc, pour les gens, c'est vraiment facile. En 2 secondes, ils sont déjà en train de tester. Mm-hmm. Et nous, ça nous permet de facilement aussi exposer le service. Bon, la plupart des raisons, c'est « Ah, mais le truc, c'est intéressant. Hein. » Donc, s'il veut plus de fonctionnalités, maintenant, on peut l'envoyer vers l'application. Mais s'il ne veut pas remplir l'application, au moins, il a déjà une série de services qu'il peut utiliser, même sans nos applications.
Donc, on peut envoyer de l'argent, faire les cotisations. Je veux qu'on s'apesantisse un truc. Parce que quand on parle de cotisations chez nous, les tontines et tout ça.
Exact. C'est même une des raisons pour laquelle on avançait le produit. Hein, parce que justement, au moment où on élargissait nos cas, quelqu'un est venu nous voir avec ce problème de tontines, justement, qu'il fait beaucoup de tontines sur Facebook, sur WhatsApp et tout ça. Mais un problème de gestion de tontines. Parce que les gens envoient les captures d'écran, il faut cotiser, envoyer les captures. Souvent, quelqu'un cotise d'un numéro. Souvent,
qui n'est pas identifié à son nom et tout ça.
Souvent, la personne qui bouffe la cotisation disparaît avec l'argent. Il y avait tellement de problèmes, mais la condition était que mais il faut que ce soit sur WhatsApp. Parce que franchement, j'ai beaucoup de gens dans mes tontines, mais si je leur dis d'aller encore télécharger, ils vont pas vouloir. Donc il faut vraiment que ça marche là où on est déjà. C'est là où on a dit, bon, si on est déjà en train de faire au cas et d'élargir, ben autant mieux ajouter aussi un module de tontines dans ce bottle. Donc du coup, on peut faire des tontines aussi dans le bottle.
Et là, ça se passe comment?
Celui qui crée il crée une tontine. Mais au moment de créer la tontine, on a des informations qu'on met. Mm-hmm. Une des informations captées, c'est celui qui bouffe la tontine. Ça, c'est mis au début.
D'accord.
Pour qu'après, on puisse modifier.
On doit mettre quoi? L'ordre de passage?
Non, pardon. On crée une tontine avec juste le numéro de celui qui bouffe et la description. C'est-à-dire...
Ah, donc si c'est une tontine à la semaine, on peut créer toutes les semaines.
Exact. Chaque semaine, on en crée une, tout simplement. Et maintenant qu'on crée une tontine, à la fin, on a un lien. ça qu'on copie et puis on partage dans son groupe WhatsApp, tout simplement.
D'accord.
Et toute personne qui clique sur le lien, il atterrit sur une interface où il peut cotiser.
D'accord, il dépose l'argent à la date prévue, c'est envoyé au numéro.
Non, c'est envoyé instantanément.
À chaque fois qu'il cotise, on envoie à celui qui doit recevoir.
La différence aussi, c'est que maintenant, il y a un système de notification derrière ça. Dit celui qui bouffe reçoit directement une notification qu'on a cotisé, donc il n'a plus besoin d'attendre jusqu'à la fin. La personne qui a créé la cotisation, elle aussi reçoit directement la notification.
Comme ça, on vérifie plus facilement.
Exact, c'est plus facile de savoir qui a
payé. Est-ce que tu as déjà cotisé la réunion finie à telle heure?
Il y a aussi une historique, c'est-à-dire tous les membres peuvent aller consulter l'historique de la cotisation. Donc ça veut dire qu'on sait en temps réel et à tout moment qui a cotisé combien. C'est répertorié en fait. Et maintenant, quand la cotisation arrive à la fin, celui qui a créé la cotisation peut la décaisser. Parce que l'argent ne va pas directement chez celui qui vous s'est d'avoir stocké dans le tarant, en fait.
D'accord.
Donc, quand c'est une cotisation journalière, ça veut dire que le lendemain, celui qui a créé la cotisation peut décaisser.
Mm-hmm.
Et quand il décaisse, l'argent va chez la personne qui l'a désigné comme
bénéficiaire.
C'est-à-dire que ça va plus chez quelqu'un d'autre. Puisque le numéro qu'il a mis comme bénéficiaire était déjà au début.
Mm-hmm.
Voilà. Donc là aussi, on a cette assurance que l'argent ira toujours chez la personne qu'on a désigné comme bénéficiaire au début. Donc, il n'y aura plus des surprises que, voilà, je ne vois pas mon argent, ça fait deux jours, je ne sais pas qui a cotisé parce que je devais recevoir un exemple de 30 000 mais je n'ai que 25 000 aussi. Là, c'est facile à voir parce qu'il y a une historique où tout est répertorié en fait. Donc, c'est ce module qu'on a fait dans WhatsApp et Telegram. L'avantage avec ça, c'est que ça permet aux gens de cotiser sans avoir à quitter l'application que j'utilise déjà.
Mm-hmm.
Voilà, mais le but maintenant, c'est de faire quelque chose de plus élaboré pour ceux qui font vraiment des tontines professionnelles. Et là, par exemple, ce sera dans l'application. C'est là où j'ai dit, c'est cette vision maintenant pour ceux qui veulent un peu plus pour ensuite télécharger l'application. Mais ceux qui ne veulent pas, ils peuvent juste rester dans Tara et ça fait aussi l'affaire.
D'accord, puisqu'on a évolué de Oka à Tara avec de nouvelles fonctionnalités maintenant pour gérer ces transactions financières,
oui.
Est-ce qu'il faut une sorte d'agrément avec les institutions et
bien
tout ça?
Il faut grandir puisque le volume de transactions aussi en train de grandir. Donc il faut du côté du régulateur aussi s'assurer. Donc on est en train de travailler dessus. Il y a plusieurs options. Une des options, c'est d'abord de collaborer avec une institution financière qui existe déjà.
Oui.
Juste avoir un contrat de distribution avec eux.
Mm-hmm.
Mais à long terme, ce que nous-mêmes on veut, c'est de nous-mêmes
avoir votre propre agrément.
Exact, devenir nous-mêmes une institution financière à part entière, en fait, une sorte de microfinance. Si Dieu veut, d'ici l'année prochaine, on pourra le devenir.
Ah, ça va aller vite.
Mais il le faut.
Vous ne voulez pas rester longtemps sous la coupe d'un régulateur et tout ça.
Non, il faut grandir le pays. Bon, on a aussi cette vision radicale aussi d'être au maximum se tenir sur ses propres jambes, c'est-à-dire être indépendant. C'est important pour nous dans la vision. Et puis là, on n'empêche pas l'autre. On peut toujours être une institution financière et collaborer avec quelqu'un. Ça n'empêche rien, mais au moins on contrôle un peu plus son propre destin en fait.
Niveau adhésion, on en est où? Les gens, ça leur parle vite?
Oui, c'est un de nos produits vraiment où on sent vraiment, on a un moment un peu comme au début de Dicalo, on sent vraiment un peu la même chose. Puis on a aussi une partie Tara Money, on appelle ça qui est plus business.
Mm-hmm.
C'est-à-dire pour des entreprises ou des gens qui ont des business en ligne, qui veulent facilement recevoir des paiements.
Oui.
Ça aussi, c'est une partie de Tara qu'on n'avait pas avec Oka au début, qu'on est en train de faire maintenant avec Tara. Techniquement, c'est comme les comptes marchands.
Mm-hmm.
Vous savez, les puces marchandes qu'on a dans GMT Larry, sauf que nous, on n'a pas besoin de puces, c'est juste un numéro.
Mm-hmm.
Et on reçoit l'argent en temps réel. On a un tableau de bord où, en temps réel, les transactions s'affichent. Donc là, on a environ 165 entreprises, puis ça fait à peine 2 mois que Tara est là, qui sont dessus.
C'est pas 165, déjà, c'est beaucoup.
C'est pas mal. Franchement, pour nous, on en est fiers. Et sur Tara, même, on a environ 950 personnes qui testent pour le moment.
Mm-hmm.
Ce qui n'est pas non plus mauvais pour un produit qui était encore.
Qui a 2 mois et tout ça.
Exact. Donc pour les chiffres, c'est plutôt très encore.
Et pour avoir toutes ces personnes-là, c'est quoi? On reste, quand on est la tech, on reste sur les réseaux sociaux, on va quand même sur le terrain pour sensibiliser, on dort.
Bon, ça c'est le next step pour nous. Franchement, si on veut vraiment grandir, il faut prévoir aussi d'être offline. Il ne faut pas toujours faire tout en ligne parce que beaucoup de choses se passent offline. Mais pour l'instant, c'est vraiment juste les réseaux sociaux, un ami qui appelle un ami. Le next step pour nous, c'est d'aller maintenant sur le terrain, c'est-à-dire les callbox, les Benzikin, de leur montrer aussi l'outil. Et là, voilà, on a un outil ici qui peut être intéressant pour vous. Parce que ce qu'on a vu dans le passé, c'est que seulement en ligne, ça ne suffit pas.
Ouais.
La majorité des gens sont de toutes les manières offline. Donc, il faut aussi prévoir des actions sur le terrain.
Mais avec le secteur informel, c'est des gens aussi qu'on perd, qui n'ont pas tout le temps d'être.
D'aller sur les réseaux sociaux, tout ça, mais qui pourraient être intéressés par ce produit. Donc, il faudrait aussi une politique de proximité en fait, qu'on doit mettre en place. Ça, naturellement, il faut des moyens pour ça, pour déployer tout ça, mais bon, on est en train de travailler dessus.
Bon, puisqu'on parle de moyens, on peut pas vouloir gérer autant l'argent des autres, parce qu'on se dit souvent avec les gens de la tech, même quand il y a la passion de on veut rendre service et tout ça, faut bien vivre. Du coup, à quel niveau entre réseau social, messagerie, intermédiation pour le transfert d'argent et tout ça, Dicalo, qui est la grande entreprise, gagne de l'argent?
Par transaction, il y a des frais de transaction qu'on coupe. Exact. Mais à long terme, ce que nous avons fait, c'est des services. Comme j'ai dit, l'idée, c'était pas vraiment de faire le réseau social à messager juste pour faire. C'était avoir des gens connectés. Et une fois que les gens sont connectés, quels sont les services qu'on peut leur offrir? Tara, par exemple, par transaction, on a quand même des frais de transaction dessus. Tara Money, le service pour entreprise dont j'ai parlé, là aussi, on a des tarifs pour entreprise. Ceux qui veulent des fonctionnalités un peu plus avancées, ils payent quelque chose par mois pour avoir ces fonctionnalités-là. Et dans le futur, on a aussi d'autres services qu'on va développer justement pour les services paiement. Mais le paiement pour nous était important parce que c'est quand on a le paiement qu'on peut faire d'autres services. Par exemple, si on va aller dans le commerce, pour pouvoir vendre, il faut déjà que je puisse payer. Sinon, on ne peut pas vraiment vendre quelque chose. Donc, nous, on a des idées dans le commerce, par exemple, qu'on veut faire dans le futur, mais il nous fallait d'avoir maîtrisé le paiement. Voilà, maintenant, on vit des transactions, c'est-à-dire des frais de transaction, et naturellement des investissements aussi. C'est-à-dire des gens qui croient au projet et qui mettent de l'argent dedans pour nous aider à grandir.
D'accord. Justement, puisque vous parlez des gens qui croient au projet, il y a quelques années, on voyait Charlotte Dipanda, Claudie Siard et tout ça. Est-ce que ces gens-là ont aidé avec leur notoriété à ramener du monde ou à donner de la lumière
Bien sûr. Surtout que déjà, techniquement, c'est eux-mêmes qui nous ont vendu le projet Dicalo parce qu'ils ont ils ont directement compris ce qu'on voulait faire. Ils ont une vision très panafricaine des choses. Ils comprennent que l'Afrique doit se tenir sur ses propres jambes. Donc, à travers leur aura, ils nous aident même jusqu'à aujourd'hui toujours. Ils sont toujours là. On attend juste que voilà, la plateforme soit un peu plus stable pour qu'on fasse des communications plus grandes. Mais ils sont toujours là.
Et on va disparaître.
Non.
Ils sont quoi? Sympathisants, mini-actionnaires?
Les deux, on va dire. Actionnaires et aussi sympathisants. Ils utilisent plus de leur réseau pour nous amener du monde, mais c'est plus de bouche à oreille. C'est pas vraiment à grande échelle. C'est plus voilà, un ami qui invite un ami. Mais on utilise beaucoup leur réseau pour nous amener du monde, oui. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi monsieur tout le monde. Hein, c'est Dicalo au sens, comme j'ai dit, sans notre communauté, on aurait fermé les portes depuis, sincèrement, pour être honnête, parce que c'est eux qui nous permettent vraiment de rester. Parce que eux, ils ont la patience, ils supportent quand l'application bug un peu, ils sont patients et ils ne vont pas dire ah non, ça marche pas, je m'en vais directement sur Facebook. Un peu comme toi, hein. J'ai été très surpris que tu me contactes directement par Ubuntu. Parce que j'avais pas des gens, mais ils vont m'écrire par d'autres.
En changeant de téléphone, j'ai désinstallé, réinstallé autant de fois que possible. Parce que quand on change de téléphone, il faut.
Merci beaucoup. Non, franchement, ça m'a vraiment aussi beaucoup
touché. Je vais pas utiliser autant de fois, mais même si c'est seulement du calo, c'est quand même un peu là.
Le geste est là et ça fait plaisir. Tu vois, quand quelqu'un veut t'interviewer, et qu'ils utilisent ta plateforme, ça fait c'est différent. L'habitude, on a l'habitude à ce que les gens nous comptent. Non, ça sonne, ça dit pas beaucoup, mais pour nous, c'est grand. Ça veut dire que la personne s'est donné la peine. Tu vois, c'est pour ça que je n'ai même pas réfléchi. J'ai dit non, oui, parce que seulement ça, ça m'a convaincu. Donc, on a des gens comme ça qui croient, qui sont patients, qui essayent. C'est eux, jusqu'aujourd'hui, qui nous ont permis de grandir. Il y a même pas seulement en temps, mais aussi en argent aussi. Ça dit qu'ils ont mis de l'argent parce qu'ils croient à l'avenir de la plateforme et tout ce qu'on a ici, même le bureau qu'on a ici, tout ça, c'est grâce à ces personnes-là.
Ça tombe bien que vous en parliez parce que j'allais arriver à cette partie parce qu'on sait que quand on se lance dans un tel projet, on n'a pas toujours l'argent pour développer, on a les idées et tout ça. Et vous, je trouve que vous avez une expérience très instructive avec les levées de fonds.
Ouais.
Parce qu'il y a une histoire que vous racontez ou partagez, vous dites avoir renoncé en 2020 à un financement avec des gens qui étaient prêts à mettre de l'argent pour éviter les difficultés futures.
Ouais.
Est-ce qu'on peut dire que finalement la levée de fonds, comme on le voit beaucoup dans le secteur de la tech, n'est pas toujours la solution?
Non, pas toujours. Moi, je me dis, il ne faut pas lever les fonds pour lever les fonds. Et les gens, ils lèvent juste les fonds parce que bon, il lui faut de l'argent. Il faut lever les fonds parce qu'on sait aussi comment on va rembourser. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas du bénévolat.
Ouais.
Les gens qui mettent de l'argent sur le produit, c'est qu'ils s'attendent à ce que le produit donne quelque chose dans le futur, même si ce n'est pas le futur immédiat, mais quand même qu'il y a une perspective où il a une idée que bon, cette affaire, il va faire de l'argent. Et malheureusement, beaucoup de personnes lèvent juste de l'argent pour leur propre situation financière, peut-être parce que bon, ça ne va pas, et puis lèvent de l'argent. Mais est-ce que tu as un plan? Donc nous, on s'est dit, on va faire ça autrement. On va lever de l'argent quand on a un plan aussi de comment la plateforme va faire de l'argent. Et à l'époque, quand j'ai eu cette offre-là, ben, on n'avait juste pas d'idée. Je leur ai dit, écoutez, moi-même, je ne sais même pas si Dicalo va tenir un an. Si je prends l'argent maintenant, je ne sais même pas comment je vais vous rembourser.
Ça va finir en poursuite.
Exact, ça va finir en problème. Donc, je ne peux pas prendre l'argent. Et surtout que bon, les conditions aussi étaient, le pourcentage était assez élevé pour rembourser après. C'est pour ça que j'ai refusé. Ce n'est pas qu'on n'avait même pas besoin d'argent à l'époque, hein, mais c'était les conditions de remboursement a été un peu flou pour une plateforme où moi-même, je n'étais même pas sûr qu'elle va tenir. Je voulais vraiment, je vois jusqu'où on peut aller. Mais maintenant, ça va, on a un plan clair de comment l'argent peut entrer. Donc, voilà, c'est un peu différent maintenant dans les levées de fonds. Et pour cette phase-là, c'est la communauté qui nous a aidés. En fait, c'est des gens qui
croient. Acheter les jeux Farod, du Calo, tout ça.
Lancé, mais aussi des gens individuellement qui disent non, j'aime bien ce que vous faites. Voilà. C'est ça qui nous a permis de rester à flot jusqu'au bout. On a des gens qui sont vraiment dans l'ombre et qui nous suivent depuis 5, 6, 7 ans, toujours là. Voilà. C'est eux qui nous permettent de survivre.
D'accord, mais avec tout ça, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Dicalo, c'est une entreprise rentable?
Non, on n'est pas rentable du tout. Faut dire les choses nettement. C'est-à-dire, on génère de l'argent, mais on dépense toujours un peu plus que ce qu'on génère. Rentable.
Donc, monsieur le DG, il ne peut pas encore rouler carrosse?
Ah non. Non, là, on a un drôle, mais bon, on travaille pour que ça arrive. On travaille vraiment dur. Comme ça, quand ça va arriver, bon, on pourra aussi enjoy. Mais on est vraiment, on dépense encore un peu plus que ce qu'on gagne.
Mais justement, est-ce qu'il y a une piste de proposer autre chose de faire? Parce que la tech, c'est quand même grand et que vous avez quand même une grande expérience. Est-ce que vous faites encore des produits pour d'autres personnes si elles le veulent ou bien parce qu'on a l'impression que c'est centré sur vos produits, vos services?
Non, non. Alors, c'est comme les autres produits, on n'en parle pas du tout, mais on fait aussi des applications pour d'autres personnes. Sauf que c'est vraiment, on choisit vraiment avec qui on travaille. C'est pas tout le monde. Premièrement, parce qu'on est petit, on n'a pas assez de ressources et je choisis vraiment, vraiment beaucoup les projets avec qui je travaille.
C'est plus. Quoi, c'est les projets qui seront rentables sans trop de casse-tête?
Non, techniquement, c'est d'abord humainement. C'est-à-dire, il faut déjà qu'avec la personne, ça passe. Voilà, il faut aussi que techniquement, ça me parle. C'est-à-dire que ce soit un challenge que j'ai l'impression que, OK, je peux m'identifier avec ça. Et voilà, que ça paye aussi assez. Parce que, voilà, il faut à la fin de la journée que si on y met des ressources, que ça nous permette de survivre. Parce que c'est des ressources qu'on va retirer ailleurs pour mettre dans le projet, en fait. Mais c'est vraiment le premier qui était, c'est d'abord humainement. Le deuxième qui était, c'est est-ce que c'est intéressant, même techniquement, sans vouloir dénigrer des projets. Mais juste, c'est un projet que je peux pas faire parce que j'ai pas la ressource pour ça. Et est-ce que c'est à long terme? Est-ce que c'est un truc juste pour 2-3 mois ou c'est un truc pour 1 an, 2 ans? Ça aussi, ça joue un rôle. Et après aussi, est-ce que ça paye assez? Donc, par an, on prend quand même 1 ou 2 projets, quand même.
Par an?
Oui. C'est-à-dire, on peut prendre un projet qui fait 6-7 mois, un projet qui fait 1 an. Dans la moyenne, c'est 1 ou 2 projets par an. Et ça aussi, ça nous permet d'arrondir les fins de mois. On peut pas toujours compter sur les investisseurs parce qu'il y a des phases où les gens n'ont juste pas d'argent, en fait. Donc, il fallait trouver autre chose pour pouvoir combler ces déficits-là.
D'accord. Et aujourd'hui, Dicalo au Cameroun, en tout cas, c'est à peu près combien de personnes
qui travaillent
au quotidien?
On est combien ici? Bon, là, on est 5. Et puis, 5 stagiaires. On essaie de prendre le maximum de stagiaires possible aussi.
Pour transmettre.
C'est une vision personnelle qui me tient à cœur, vraiment, c'est de retransmettre ce qu'on a appris ailleurs. Donc, je tiens beaucoup à avoir des stagiaires. On en a 5 et puis il y a 5 personnes qui travaillent.
Ils sont là à temps plein.
Exact. On est 4 ici à Douala et puis il y a Kate qui est à Yaoundé.
D'accord. Exact. Et au niveau utilisateur?
Alors, au Cameroun, bon, de façon générale, on a 1 million, maintenant 200 000 personnes, je pense, à Cameroun.
Au Cameroun?
Non, pas au Cameroun. Okay. De façon globale, au Cameroun, je pense qu'il y en a 750 000 personnes qui sont enregistrées et qui se connectent chaque jour. Ça peut être dans les 400 ou 410 000.
D'accord. Puisque vous êtes basé au Cameroun et qu'on a l'impression que la plupart des services sont développés pour le Cameroun, par exemple, en Côte d'Ivoire ou pour les autres pays, les gens, comment ça se passe? Est-ce que Tara également va se développer dans ces pays-là?
Ça fonctionne. Mais bon, le focus, c'est d'abord de stabiliser la chose, de gagner un marché. On ne va pas s'étendre si déjà localement, ce n'est pas vraiment du solide. Ton autre vision, c'est d'abord que ça marche bien. Il y a toujours encore des petits couacs. Comme je dis, iPhone, là, c'est toujours encore shaky. Donc vraiment, il faut que ce soit stable. Et maintenant, on peut s'exporter vers d'autres marchés. Parce que les autres marchés, les gens sont un peu plus, ils attendent juste un peu plus, en fait.
Oui, mais la qualité, tout ça.
Le seul truc de dire, c'est fait local, c'est bon.
Il y a un niveau d'exigence.
À un moment, ça ne va pas suffire. Il faut vraiment que ce soit aussi qualitativement bon, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on est encore timide à ce qui concerne l'expansion, tu vois. On ne pense même pas encore à l'Afrique anglophone parce que eux là-bas, ils sont encore...
Ça va vite.
Exact. Donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de stabiliser les choses et maintenant de s'étendre. C'est pour ça qu'on veut d'abord gagner le Cameroun. On veut d'abord que ce soit un réflexe ici pour les gens. Bien sûr, il y a des gens des autres pays qui utilisent, hein, mais c'est plus, comme j'ai dit, plus
la petite échelle et tout
le
ça.
Bouche à oreille. En fait. Le temps pour eux de stabiliser. Et ensuite, maintenant, on va attaquer d'autres pays.
D'accord. Il y a une fonctionnalité dont je m'en voudrais de ne pas parler alors qu'on est en train de terminer cet entretien, M. Alain Incarbi. Mm-hmm. Je m'en voudrais de partir d'ici sans demander des nouvelles d'Achali.
Achali, tout le monde nous demande ça. Achali est là. Achali, c'est notre joyau, on va dire ça. On a un peu arrêté de parler de Achali parce que mais déjà beaucoup de gens nous copiaient, pour être honnête. Il y avait déjà beaucoup d'histoires pareilles qui sortaient sur Facebook et tout, mais d'arrêter d'écrire ça. Mais c'est en cours. On espère vraiment que le premier épisode va sortir cette année, que les gens vont vraiment aimer.
C'était prévu. J'ai envie de dire que ça fait longtemps que nous, on est derrière, on attend.
On avait dit premier épisode en 2025. C'était ça qu'on avait.
On a l'impression que 2027, d'arrêter est fini.
Ouais, c'est vrai. En même temps, écrire ça, c'est pas aussi simple que ça va aller au vu de tous les autres projets qu'on a ici. Mais ça vient. Premier, ça vient et je pense que les gens.
Il y a une équipe de ghostwriters, vous êtes également aux manettes pour l'écriture, raconter, tout ça.
Non, pour l'instant, bon, j'ai commencé à écrire pour être honnête, mais je me suis rendu compte que je ne peux pas être partout. Donc, il faut ça aussi, il faut que je laisse tomber. Ça m'avait un pincement de cœur, hein, parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment faire, mais je me rends juste compte que je ne peux pas être partout. Donc, il fallait déjà recruter quelqu'un qui veut le faire, qui peut le faire, qui a vraiment des connaissances aussi culturelles, qui passe vraiment ce qu'on veut faire. Donc, on a trouvé la personne et elle est en train de travailler dessus.
Niveau graphique, on va toujours exploiter l'IA parce qu'au début, ça va être vraiment de la créa.
Juste pour la construction des personnages, voilà, mm-hmm. juste pour montrer un peu la vision derrière. Mais ce sera vraiment dessiné à la main avec des vrais dessinateurs. Déjà, ça va même commencer comme un livre, c'est-à-dire sans dessin. Mm-hmm. Et la phase d'après sera la bande dessinée. Et pour la bande dessinée, ce sera vraiment des gens qui vont dessiner. L'IA, vraiment, c'était juste pour itérer rapidement et juste pour montrer aux gens un peu à quoi ça va ressembler. Voilà. Mm-hmm. C'est ça. Mais sinon, ce sera
vous avez plongé dans un univers fantastique entre l'eau, le feu et tout ça. Mais j'ai cambi, on est en septembre. Septembre, voilà, comme ça a commencé, ça va finir bientôt. Est-ce que c'est sûr que d'ici décembre?
Ouais, on espère.
Comment ça, on espère? C'est 2025, vous avez dit.
Le problème, c'est que, non, on va produire quelque chose, ça, c'est sûr. Le truc, c'est qu'il y a tellement à faire en ce moment, Adikaro, que je ne sais même pas où mettre ma tête.
Vous avez pris l'engagement,
je sais.
Nous, on attend.
Ça va venir. Mais ça progresse aussi. Franchement, ça progresse. Ça va venir. Moi-même, j'étais tellement. Hein, j'aimais tellement moi-même la police, toi. Mais on a dû vraiment stopper parce qu'on a juste arrivé au niveau.
Je connais déjà le chemin qui vient à Ducal à Boanjo. Je viendrai chercher le premier exemplaire. Voilà. Je ne sais pas comment on va faire, mais d'ici décembre, il faut qu'on puisse.
On a le volume zéro déjà. Oui. Le volume zéro, c'était pratiquement juste le recap de tout ce qu'on avait déjà fait sur Facebook. Là, l'épisode 1 du volume 1 est en train d'être écrit. C'est déjà aussi assez avancé, hein, franchement.
C'est avancé, c'est pas encore terminé, c'est la partie-là qui nous retient ici.
C'est pas encore fini, ça, je dois avouer que c'est pas encore là où je veux que ce soit, mais on est à l'heure.
En tout cas, on attend, c'est avec l'espoir que d'ici la fin de cette année 2025, on pourra avoir le volume.
Faut que je tienne ma parole.
Faut au moins
qu'il y ait un épisode, non pas tout le volume, mais au moins un épisode du volume.
Un épisode?
Ouais. Parce que
trois pages?
Non. L'épisode, c'est environ 100 pages.
Ok.
100 pages par épisode.
D'accord.
Il y a 10 épisodes dans le volume 1 seul.
Ok. Voilà.
Bon, c'est pas si petit.
Donc, on attend les 100 pages du volume 1.
Là, maintenant, on est environ à 70.
Faut avancer. Ça va.
Tout ça aussi demande des moyens. Hein. C'est malheureusement, et ça aussi, on n'a pas toujours des moyens de financer ce genre de choses. Donc, il faut prendre un peu ici, prendre un peu là.
Prenez partout où vous pouvez. Nous, on attend.
Mais ça, je ne veux pas faire des excuses.
on attend le volume. On va vous remercier de nous avoir accueillis dans votre start-up.
Merci.
D'avoir voulu être le premier invité de Classico pour cette nouvelle saison.
Mais vous aussi, bonne chance pour la nouvelle saison. J'espère que je vais vous apporter beaucoup de chance, que voilà, il y aura toujours plein d'auditeurs. Mais je pense que Dika nous porte chance, donc je suis sûr que.
On a intérêt à se porter chance dans le soutien des Africains aux Africains, pour les Africains et par les Africains.
C'est très gentil. Oui, ça, on en a besoin. Hein. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais surtout nous, les start-up tech, on a aussi besoin des médias comme les vôtres, vraiment, pour nous donner de l'exposition dehors, pour montrer aux gens ce qu'on sait faire, que voilà, ça ne vient pas toujours d'ailleurs. On a aussi des talents locaux qui savent faire des choses, mais il faut aussi que voilà, il y ait un stage où ils peuvent présenter ce qu'ils font. Donc vraiment, merci beaucoup pour le travail que vous abattez, en fait. C'est quelque chose qui me tient vraiment personnellement à cœur. C'est pas tout le temps que les médias nous contactent pour parler de nous. Hein. Ils ont d'autres sujets là-dedans qui sont un peu.
C'est notre travail. Nous, là, on a pas d'autre à faire. On a choisi la mission de mettre en lumière les entrepreneurs, peu importe les secteurs. La porte reste ouverte. C'était un plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous, de découvrir votre univers et très certainement à bientôt.
À très bientôt. Ça, vous avez à tout à gagner un fidèle auditeur, ça, je peux le dire.
Il suffit d'aller sur 87.9 ou alors de télécharger l'application volume 3 sur Play Store.
Je connaissais avant, mais chaque mois, j'avais un peu discuté. Mm-hmm. Je connaissais. Welcome back, on va dire.
Cette rubrique est disponible en replay et en intégralité sur notre site internet www.volume3media.com. Hey, c'est pas parce que tu quittes ton véhicule que tu ne peux pas continuer d'avoir la vibe. Télécharge l'application sur Play Store, Volume 3 Cameroun.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Après cet échange avec Alain Ekambi, avec qui on a parlé de Dicalo, de tous les produits et services, il est temps pour nous de nous rendre au marché parce qu'il sera bientôt midi. Et donc aujourd'hui, on va chercher du miel et le panier, c'est Vialingea qui le tient.
Écomarché, tous unis contre la vie chère.
De retour d'un voyage à l'ouest le week-end dernier, notre car a fait escale à Melon pour nous permettre de nous dégourdir les jambes. Pendant que d'autres dégustaient avec un plaisir non démesuré les beignets coquilles, une vendeuse s'est approchée de moi, me proposant du miel. Elle disait à qui voulait l'entendre qu'il est de bonne qualité. Sa déclaration a donc lancé la discussion entre les passagers. Durant le reste du voyage, c'était la bataille des affirmations sur le fait que le bon miel vient exclusivement du Grand Nord. Et bien entendu, quand on parle de qualité, chacun a profité pour énumérer les mille et une techniques pour reconnaître le bon nectar. Une fois à Douala, cet échange vif qui avait pris corps dans ce bus m'a donné envie d'en savoir plus sur le miel et de démêler le vrai du faux en ce qui concerne ce produit impérissable. Ne sachant pas vraiment s'il y avait un marché de prédilection pour acheter du miel, je me suis rendu à celui de Bonamoussadi. J'ai fait le tour des comptoirs durant un bon moment sans en trouver. Et alors que le découragement commençait à me gagner, apparu comme sur un coup de baguette magique, je croise enfin le chemin d'un vendeur ambulant qui me parle du miel, de sa provenance et de sa commercialisation.
Je vends le miel du Nord. Le miel du Nord est composé à trois types de miel. Il y a le miel de l'arbre, il y a le miel du sol et il y a le miel qu'on fabrique la caisse, ça attire les abeilles. Oui, tous les miels sortent de la forêt parce que c'est les abeilles qui fait la différence. Parce que les abeilles, il y a deux types d'abeilles. Et dans les abeilles que tu vois là, il y a les abeilles, il y a le miel qu'on appelle le miel sauvage. Le miel sauvage, tu vas retrouver ça dans le tuyau de l'arbre, du gros arbre là. Et aussi le miel du sol, c'est ça qu'on appelle le miel sauvage. Et il y a le miel pour la caisse, ça là c'est partout, ça se trouve, bon, même à l'ouest, tu peux fabriquer la caisse et ça attire les abeilles bien habitées dedans. Bon, pour trouver que c'est le bon qualité ou ce n'est pas le bon qualité, il y a les gens qui testent. Si tu veux, je peux te montrer, tu peux tester le miel avec l'eau dans un verre, par exemple. Tu peux tester avec les allumettes. Tu mets l'eau dans un verre et tu mets le miel traverse l'eau là, ça part rester en bas. Clairement, c'est comme s'il n'y avait rien qui a traversé l'eau. Et pourtant, c'était le produit qui est le faux miel, voilà, qui est composé. Dès que tu mets dans l'eau là, l'eau change de couleur. Tu comprends un peu? Et pourtant, quand c'est le miel, dès que tu mets dans l'eau, ça descend en bas, c'est quand tu secoues que ça change le couleur. Mais si tu n'as pas secoué, ça ne change pas le couleur, ça ne va pas rester en bas. Tu mets sur le papier format là, le papier format, tu as le papier format de 25 là. Tu mets sur ça là, toi-même, tu mets le miel sur ça et tu prends par exemple l'eau ou bien l'huile ou bien bon, le produit que tu peux prendre, tu mets aussi sur le même papier, tu vas voir le miel va rester, ça ne traverse pas, ça ne mouille pas. Mais les autres produits là, tu vas voir que ça va mouiller le format là. C'est là où tu vas voir la différence entre le bon miel et le faux miel. Et tu prends les aliments là, tu trempes la. Les boussettes d'allumer là, tu trempes dedans dans le miel là, clac, tu vas voir ça va s'allumer. Donc tu n'as pas de difficulté pour s'allumer. Bon. Je vends un litre à 2500, le petit litre à 1000 francs. Il y a la quantité de 1000 francs. Et il y a un litre, il y a un litre et demi, bon, ainsi de suite. Oui, moi, je détaille même à partir de 100 francs. Oui. Et le plus petit chez moi, c'est 1000 francs. Et il y a le de 1250, et il y a un litre de 2500, et il y a le tangui de 2750.
Je décide de ne pas me limiter à cette intervention providentielle. Dans l'espoir d'en savoir plus, je change de marché en quittant de Douala 5e pour Douala 1er. C'est au marché de New Deido que je me retrouve cette fois. Bandé comme d'habitude, c'est entre les étals de tomates, les cris des vendeuses et les odeurs d'épices que je fais la rencontre de maman Irène, qui en plus de l'huile de palme et des épices, vend également du miel depuis plusieurs années.
le miel, ça sort de l'ouest, la forêt de l'ouest là-bas. Oui, les clients eux-mêmes ils font la distinction, ils connaissent le miel. Et eux-mêmes te disent que maman, je peux tester. Je dis oui. Donc ils prennent un papier, ils mettent une goutte de miel. Si ça ne ressort pas un peu comme de l'huile de l'autre côté, ils savent que c'est bon. Parfois ils retournent la bouteille de miel. S'il y a un dépôt en bas, un peu comme du sucre raffiné, ils savent que c'est pas bon. Parce qu'avec du bon miel, quand tu retournes, tout le miel doit être liquide et un peu épais. Donc parfois quand c'est du mauvais, ça fait un dépôt au fond. Et parfois quand le miel est même bon, on le dilue, il devient plus léger. Donc les clients eux-mêmes connaissent quand ils prennent, ils regardent. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je les amène à comprendre, à faire la différence entre le bon et le mauvais. C'est pas seulement à l'extrême nord. Il y a le miel qui sort du nord, il y a le miel qui sort de l'ouest. C'est pas seulement le miel du nord qui est le bon. Mais seulement que le miel du nord est un peu plus noir. Par contre, celui de l'ouest est moins noir que celui du nord. Le litre, c'est 2500. 1500, 1000 francs. Ça dépend de la quantité que le client veut. Il y a des petites bouteilles. Il y a même pour 500 pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, qui veulent juste un peu pour la toux. Le miel, beaucoup de gens l'utilisent comme le sucre. Hein. On l'utilise pour les enfants, on l'utilise aussi pour les personnes malades. Là. En fait, ça a beaucoup de vertus dans tous les cas.
Le miel, qui fait partie des rares denrées impérissables, est très prisé. Il trouve sa place autant sur la table du petit déjeuner que dans les recettes de cuisine ou de pâtisserie. Il en existe plusieurs variétés, comme le miel d'eucalyptus, le miel à l'orange, ainsi que de nombreuses autres déclinaisons. Et quand on parle de miel, comment oublier celui d'Oku, récolté au mont Oku, dans le nord-ouest et dont la blancheur lui a valu d'être en 2013 le premier miel avec indicatif géographique protégé en Afrique subsaharienne. Autant de qualités qui justifient son prix, trois fois plus élevé que celui du miel dit ordinaire. Par exemple, au supermarché Carrefour, où les prix diffèrent d'une marque à une autre, on retrouve 250 g de miel blanc à 6500 francs, comparé au miel d'orange dont 375 g coûte 9990 francs. Dans ce supermarché, vous trouverez également du miel d'acacia à 7900 les 375 g ou encore du miel de forêt sous le format 900 g à 7250 francs. Réputé pour ses vertus curatives, le miel joue un grand rôle pour notre santé et le nutritionniste Romain Signe nous éclaire sur ses atouts pour l'organisme.
La consommation du miel doit se faire en fonction des consignes d'un professionnel qui tiendra compte de l'état physiologique de chaque individu. Cependant, chez une personne saine, il peut consommer quotidiennement une à deux cuillères par jour, le matin pour un regain d'énergie, et le soir, il peut également consommer en infusion pour favoriser un meilleur sommeil. Cependant, il faut s'assurer d'avoir du miel pur et surtout du miel local pour être sûr de bénéficier de toutes ses vertus. Donc en conclusion, le miel est un médicament formidable qui allie le plaisir et la santé, mais sa consommation doit être modérée. Il y a des cas où le miel est fortement déconseillé. Par exemple, chez les enfants de moins d'un an, ils courent le risque de développer une maladie rare appelée le botulisme infantile. C'est une maladie grave due à certains spores contenus dans le miel qui vont donc affecter l'enfant de moins d'un an. Chez les adultes, les personnes diabétiques, s'ils consomment en excès, cela influencera forcément leur glycémie. Chez les personnes âgées, elles peuvent en consommer, mais toujours avec modération.
Ce nectar qu'on doit aux abeilles est aussi très utilisé dans la cosmétique pour ses propriétés et de nombreuses femmes en ont fait un allié de beauté incontournable.
Oui, moi j'utilise le miel sur mes soins corporels et sur mes soins du visage. Oui, ça agit.
Le miel, je l'utilise régulièrement pour mes soins faciaux. C'est un produit bio, c'est un hydratant, purificateur, nettoyant, un cicatrisant même aussi.
Les abeilles qui sont à l'origine du miel joue également un grand rôle dans notre environnement et au cas où vous ne le sauriez pas, le 20 mai leur est consacré. Si au Cameroun c'est fête de l'unité, cette date est également journée mondiale des abeilles. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime qu'environ 70 à 75% des cultures vivrières mondiales dépendent en partie de la pollinisation par les abeilles et autres insectes, ce qui contribue à maintenir l'équilibre des écosystèmes en aidant à la production d'autres cultures telles que le café et le cacao.
Écomarché, tous unis contre la vie chère.
Merci beaucoup Vialing Eya pour toutes ces recherches sur le miel. Rendez-vous demain pour la prochaine expédition. Et c'est le temps de la première escale de cette nouvelle saison. Nous allons à la rencontre de David, mécanicien.
Escale dans Classe Eco.
Moi, je m'appelle David, je suis mécanicien à Bonamoussadi. Je me suis retrouvé dans le travail de mécanicien. Bon, j'ai laissé d'abord l'école en classe de 4e. J'ai laissé l'école en classe de 4e. Bon, pour ne pas rester à la maison, ma mère m'a proposé de me lancer dans une formation. Bon, je voulais être peintre à la base, mais elle m'a dit d'aller être mécanicien. Elle dit pourquoi pas essayer. Je me suis lancé avec le temps, ça a donné. Je suis un gars d'abord qui aime d'abord la construction des voitures. Bon, ce qui me passionne sur mon métier, c'est qu'il y a des choses incroyables. Vraiment, d'abord, la mécanique, c'est un métier incroyable parce que il y a les choses que je vois que je ne pouvais pas imaginer que je pouvais toucher un jour, comme parfois les voitures électriques. Il y a les voitures que tu vois, on te dit que ça accélère, mais le moteur ne tourne pas. Un peu comme ça. Bon, j'ai laissé l'école. C'est pas parce que j'étais bête d'abord, mais c'est que j'ai pas aimé l'école. J'ai pas aimé l'école vraiment parce que quand je partais à l'école, je fuyais. Moi, je vois que ça servait à rien de payer la pension pour ne pas partir. C'est pourquoi j'ai dit, je préfère ne plus aller à l'école. C'est pour ça. C'est moi-même qui suis parti dire à ma mère que je ne vais plus fréquenter, que l'école n'est pas faite pour moi. Bon, elle a compris, elle n'a pas bavardé. Elle a dit que, ah, si tu viens de ton propre grand métier, ça veut que si je te force, tu ne peux plus aller. Et ça ne sert à rien. Et je me suis lancé dans la mécanique. Bon, aujourd'hui, ça fait près de 3 ans. On peut dire ça par la 4 ans. Non, pas qu'on me paye. J'aide mes marchés, mais du jour où on me paye pas, c'est mes bons petits warap. J'ai mes marchés dehors. Je n'ai pas encore eu de problème, mais j'ai eu un seul problème. Un problème, mais je peux pas dire que c'était un problème parce que je l'ai résolu facilement. J'ai pris une voiture, je suis parti travailler. D'un coup, la courroie s'est coupée, la courroie de distribution s'est coupée. J'étais obligé de sortir mon argent pour payer. Puisque si je disais au client, il me dit que ça court, que la voiture roulait. Puisque si tu prends une voiture d'un client qui roule, après tu dis subitement ça ne roule pas, il va te dire que en prenant sa voiture, ça roulait. Donc, j'étais obligé de sortir mon argent pour arranger la voiture. Bon, là-bas, c'est un technicien malhonnête. Vu que si tu ne peux pas arranger quelque chose, avoue-toi vaincu, tu dis au client que bon, je ne peux pas. C'est pas comme si en te disant que tu ne peux pas, c'est la fin du monde. C'est pas toi qui avais créé la mécanique. On ne connaît pas toi en technique. Puisque il y a ce que tu peux faire, ça n'en donne pas. Mais c'est un enfant qui vient te montrer cette chose. Bon, moi, généralement, d'abord, j'ai près de 3 fournisseurs d'abord. C'est normal d'abord. Parce que un fournisseur, c'est pas bon pour un technicien. Parce que un fournisseur peut être occupé, l'autre n'est pas là. Mais forcément, le troisième paire que là à ta disposition. Bon, c'est d'abord comme ça pour un technicien. Donc, si tu as un fournisseur, tu seras toujours bloqué. Et si lui, peut-être qu'il avait l'habitude de dire que peut-être qu'il y a une pièce que tu as l'habitude de prendre à 25 000, lui n'est pas là. Tu peux partir voir une autre personne qui n'est pas ton fournisseur et te dire que la pièce est 35 000, vu que tu n'achètes pas les choses sur lui. Je me lève le matin, je prie. Parce que d'abord, la première des choses, prier. Parce que c'est Dieu qui veille, il veille ses enfants. Et quand j'arrive au travail, première des choses au travail, c'est la propreté. Parce que vu, si peut-être ton garage est sale, ça bloque. La saleté bloque le travail. Rien ne peut passer. Bon, quand il dit rien ne peut passer, c'est que quand le garage est sale, ça n'y a pas d'attirance. Ça ne peut pas attirer peut-être un client de venir vers toi. Parce qu'il voit d'abord, tu n'es pas d'abord un gars ordonné. Tu peux dépanner, tu peux retirer une pièce de sa voiture, tu mets sur une place, tu ne connais pas d'où tu as mis. Quand tu n'es pas ordonné. Or, qui voit le garage est propre, c'est ordonné. Il a le goût de venir vers toi. Même si tu n'étais pas fort, même si tu n'es pas fort, il a le goût de venir vers toi et de savoir pourquoi que tu n'es pas un gars qui est fort. En relation d'avoir mes collègues, c'est d'avoir un gars qui est sympa. Bon, j'accepte tout le monde. Bon, je veux qu'une personne vive selon comment moi je vis. Bon, c'est comme ça que moi je suis. Donc, quand je suis avec une personne, j'aime quand la personne est avec moi. Bon, c'est comme ça. C'est ce qu'il faut que mes collègues soient aussi des gars sympas. Bon, même chose avec mes clients. Et il faut aussi savoir parler aux clients. Parce qu'il y a les clients aussi qui sont parfois têtus. Un client vient, il commence à crier. Baba dit baba, tu n'as pas rangé sa voiture comme ça, comme ça. Si peut-être tu lui dis que pour aller sa voiture, c'est 2 heures. Et que tu as peut-être pris 3 heures ou bien 4 heures. Bon, lui, maintenant, il peut venir, il crie sur toi. Mais il a quand même raison. Il y a des techniciens qui ne savent pas ça, qu'il peut crier sur toi. Il y a des techniciens qui peut-être qui s'énervent vite. Il peut aussi commencer à crier sur le client. Oh, ce n'est pas comme ça. Quand le client crie, tu te rabaisses. Parce que tu as dit 2 heures. Tu as tort. Quand tu as pris 1 heure supplémentaire. Bon, si tu es seul pour travailler et que peut-être il y a trois voitures qui sont venues en même temps et que tu te donnes un délai, là, tu es obligé d'appeler tes collègues, même si c'est hors du garage, parce qu'un mécanicien après peut-être même pas avoir moins de 50 collègues. Tu es connu, tu appelles tes collègues, venez m'aider, et là, tu es obligé de les payer pour respecter le délai. Bon, ça dépend du travail. Si peut-être tu avais pris un travail de refaire le moteur, parce que chacun ça dépend. Une personne peut dire que oui, c'est mon ami, bon, c'est mon ami, pas lui prendre la main d'œuvre comme un client, et peut-être dire que si peut-être il aime donner 20 000, donne-moi 15 000, donne-moi 13 000. Bon, ça dépend de chaque personne a son prix. Avant que toi aussi tu vas discuter après. Chaque année, il y a des stagiaires qui viennent en avril, après ils partent. Bon, maintenant, bon, l'année-ci, j'ai reçu près de un type de 4 apprentis. Oui, 4 apprentis. Non, quand un apprenti vient, si tu commences à lui donner l'argent, il va se prendre la tête. C'est d'abord ça avec les apprentis. D'abord, il faut dans le monde comment on souffre pour avoir l'argent. Oui. Bah, si tu commences là, déjà dit que tu vas le motiver, il va se prendre la tête. Quand tu vas lui dire de travailler, il ne va pas travailler, il va chercher l'argent et il ne va plus venir au travail. La difficulté que rencontre au quotidien, d'abord, c'est que j'ai d'abord un patron qui n'est pas facile, il est difficile. Déjà, si peut-être tu travailles, une pièce peut-être se casse, que même si tu n'as pas fait exprès, d'abord, là, déjà, c'est d'abord sur ta tête. D'abord, sur ta tête, là, maintenant, tu es obligé de sortir ton argent pour d'abord pour acheter la pièce. Et même s'il a l'argent, il ne doit pas accepter. D'abord, voilà ma plus grosse difficulté, d'abord, c'est d'abord mon boss. Il y a mon client, bon, c'est d'abord, ne cause pas d'abord pourquoi il est client de mon boss. C'est lui qui cause, lui me donne le chantier, je travaille. Non, on peut dire que c'est lui mon client, que lui cause avec le client, il nous donne le travail et je gère avec lui. Donc, je dis aux jeunes de se mettre au travail. La paresse, c'est pas bien. Quand tu connais ta technique, ça se perd pas. La technique ne se perd pas. Donc, les jeunes, travaillons, et travaillez bien.
Escale, dans Classeco. Tout savoir sur les dernières innovations dans Classeco.
Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas encore partie parce que dans la première saison, quand on parlait d'innovation, ça voulait dire que c'était déjà la fin de l'émission, mais on a encore Afrique Économie avant de vous quitter. Et aujourd'hui, en innovation, on va parler de gestion scolaire avec Ecotech Solution, qui est donc une solution, une plateforme 100% adaptée aux réalités éducatives locales avec des fonctionnalités complètes pour les écoles primaires, le secondaire et même le supérieur. Une plateforme qui vous permet de gérer les inscriptions, les bulletins de notes entre saisies rapide et calcul automatique des moyennes, qui permet également la facturation automatique quand il s'agit des frais de scolarité grâce à un tableau de bord. Vous aurez des statistiques en temps réel des rapports de performance de votre établissement. Et en ce qui concerne la gestion des classes, ça vous permet également d'organiser par niveau, d'assigner des enseignants à des classes, d'avoir des emplois de temps optimisés selon le programme officiel. Il y a une application web progressive qui fonctionne même sans internet. Et puis dès que vous avez un tout petit peu de connexion, il y a une synchronisation automatique. Donc, pour tous ceux qui sont propriétaires ou gérants d'établissements scolaires, si vous voulez optimiser la gestion de votre établissement et de tout avoir sur une même plateforme, eh bien, voyez Ecotech Solution ou alors allez sur un site internet ecotechsolution.net. Et c'est donc l'innovation de cette première édition de cette saison. Avant de nous poser sur le tarmac, on va prendre des nouvelles de l'économie sur le continent et donc avec Afrique Économie. Avec le concours de RFI.
Ce programme vous est proposé par notre partenaire RFI, Radio France Internationale, la radio du monde.
L'étude est basée sur les chiffres des douanes chinoises, la Chine étant le principal fournisseur de panneaux solaires à l'Afrique. Et la hausse est spectaculaire, observe Dave Jones, analyste en chef chez Ember.
L'Algérie a multiplié par 33 ses importations de panneaux solaires en un an. C'est le troisième pays en importer le plus, après l'Afrique du Sud et le Nigeria. Les importations de panneaux solaires de la Zambie ont été multipliées par 8 en 12 mois. Celles du Botswana par 7, celles du Soudan par 6 et celles du Nigeria de la RDC et du Bénin ont plus que triplé.
Les panneaux solaires importés par exemple au Tchad en un an permettraient, une fois installés, de produire la moitié de l'électricité totale du pays. une augmentation de l'offre en perspective, mais aussi une baisse potentielle des prix de l'électricité, souligne Dave Jones.
Maintenant que le prix d'un panneau solaire n'est plus que d'environ $60 au Nigeria, les économies réalisées en évitant le diesel peuvent rembourser le coût d'un panneau solaire en 6 mois, et même moins dans d'autres pays.
La grande majorité des panneaux, indiquent les images satellites, est jusqu'à présent destinée à des centrales solaires reliées au réseau. Mais l'usage décentralisé, 6000 gigawatts pour l'instant, grandit aussi, explique Gilles Parmentier, PDG d'Africa REN, un opérateur du secteur.
Des entreprises ou des industries, en site isolé ou pas d'ailleurs, vont être le client unique privé de l'installation. Ça peut être des panneaux solaires installés sur la toiture de supermarchés ou d'usines. Ça peut être une centrale solaire installée pour une mine. Et la dernière catégorie, ce sont les villages isolés sur lesquels certains opérateurs proposent des kits solaires à l'échelle domestique.
Le solaire se déploie en Afrique, ce qui imposera, selon cet entrepreneur, de relever le défi de l'intermittence de cette énergie.
Le prochain enjeu, c'est d'arriver à développer des projets de stockage comme celui qu'on a fait au Sénégal, ou à le storage, pour permettre aux sociétés d'électricité de stabiliser leur réseau et également de pouvoir différer la production solaire de la journée vers la soirée. Sinon, on va se retrouver avec des pays qui vont être en surproduction solaire la journée et en déficit le soir, alors que c'est le moment où il y a le plus de consommation.
L'autre défi pour accompagner les besoins en centrales solaires en Afrique sera le développement du réseau électrique.
Ce programme vous est proposé par notre partenaire RFI, Radio France Internationale, la radio du monde.
On rappelle donc qu'au menu de ce premier numéro d'Afrique Économie en classe éco, on parlait du décollage de l'énergie solaire en Afrique avec l'importation de 15 000 mégawatts de panneaux solaires entre juillet 2024 et juin 2025. Ce premier vol de la nouvelle saison de classe éco est vite passé, n'est-ce pas? Pour cette première, j'espère que vous avez glané des informations utiles. Je serai de retour demain à partir de 10h pour vous embarquer avec moi à nouveau vers une nouvelle destination. À demain.
Retrouve tes émissions préférées à toute heure.
Quel que soit le temps que ça prendra, je vous retrouverai
sur volume3media.com. Plus besoin de radio seulement. Tu peux continuer d'écouter ton émission préférée via l'application Volume 3 Cameroun. Volume 3 Cameroun.
L'émission que vous venez d'écouter est une rediffusion.
Est une rediffusion.